Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue à l'émission peut contenir des infos avec le partenaire François Côté.
Comment vas-tu? Simon Forgue.
Absolument. On est de bonne humeur?
Oui, absolument. Toi?
Oh, oui, je suis toujours de bonne humeur quand on commence l'émission. Oui. Au fur et à mesure où on avance, le bonheur augmente.
Ça n'avait pas l'air de ça, mais c'est correct.
On est, mine de rien, à quelques jours d'un événement international, une journée absolument extraordinaire qui se produit à chaque année, le 13 février.
Le 13 février, la veille de la Saint-Valentin.
Je savais que tu allais dire ça. C'est pas pour rien que ça a été choisi là. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été choisi, pour que les gens s'en souviennent.
Ah, okay.
13 février, veille de la Saint-Valentin, journée mondiale de la radio.
De la radio, oui.
Et, pas plus fou qu'un autre, on s'est dit, ben écoute, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On fait de la radio?
Oui.
On va recevoir le patron, directeur général de l'Alliance des radios communautaires du Canada, parce que faut que les gens qui nous écoutent un peu partout à travers le pays sachent que l'émission qu'ils écoutent peut contenir des infos.
Oui.
Elle est produite par cet organisme qui s'appelle l'Alliance des radios communautaires du Canada, et on a avec nous autres
le plaisir, le bonheur, l'honneur.
C'est ce que j'allais dire, l'insigne honneur de recevoir Pierre Sicard. Comment vas-tu, Pierre?
Salut, Pierre.
Un, je vais bien. Deux, je n'augmente pas les salaires.
C'est pas pire.
Ah non.
Ça
n'a pas marché, Simon.
Pierre, qui est directeur, on le disait, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, l'Alliance des radios communautaires du Canada, et pourquoi ça a été créé?
Ça paraît mal quand mes deux collègues ne savent pas ces réponses-là, mais je pense qu'on a fait exprès de me les poser pour que je puisse y répondre. Ben, voyez-vous, l'Alliance existe depuis 1991, puis ça découle directement de la volonté des radios communautaires francophones et acadiennes de prendre en main leur propre développement et d'assurer leur autonomie. Alors, l'Alliance est en arrière d'eux, les soutiens et tout ça, puis on en est très fiers de nos radios.
C'est quoi le mandat exact de l'Arc du Canada?
Ben, on a pour mission de contribuer à l'épanouissement des Canadiens et des Canadiennes d'expression française par la création, le maintien, le développement d'un ensemble de radios communautaires de qualité. Et Dieu sait que nos 28 stations de radio le sont.
Qui sont les membres de cette organisation-là, l'Alliance des radios communautaires du Canada? J'imagine qu'il doit y avoir des conditions pour adhérer à cette organisation-là.
Ben, premièrement, ce sont des radios qui ont une certification du CRTC. Donc, ce qui veut dire, en langage un petit peu plus commun, ils doivent respecter certains contenu, doivent créer du contenu local, doivent beaucoup diffuser de la musique et tout ça du côté francophone et surtout canadien.
Okay.
Alors, c'est des radios de communauté, c'est par et pour, comme on aime beaucoup mentionner ici. C'est des radios que la communauté un peu fignole en fonction de ses besoins locaux. Et cette radio-là est le reflet de cette communauté-là en tant que telle.
Et là, j'entends, quand tu parles de licence du CRTC, ça veut dire qu'il n'y a pas de web radio là-dedans. Ce sont toutes des radios qui rencontrent les standards du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Ben, c'est quelque chose qu'il va falloir s'asseoir éventuellement, mais pour le moment, parce que on a une façon de gérer le tout en s'assurant que ces radios-là sont en conformité avec le CRTC, ben, de cette façon-là, on est moins sujet, parce qu'on sait qu'en ce moment, la radio web n'a pas vraiment de guide de déontologie ou quoi que ce soit. L'Alliance se lancerait un peu dans un guet-apens d'embarquer avec ces radios-là. Éventuellement, on verra avec les années à venir, parce que c'est un peu une réalité qui s'en vient, mais ce sont des radios web qui devront passer le même processus.
Parce qu'il n'y a pas de réglementation.
Non, il n'y en a pas, c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux.
C'est deux poids, deux mesures, fait que c'est difficile de...
Ouais, ça serait de faire du lobby.
Concilier les deux.
Ça serait de faire du lobby pour des organisations, des radios communautaires avec une licence FM, par exemple, qui eux autres doivent respecter des quotas, respecter des contenus francophones et tout ça, et embarquer là-dedans des organisations, des web radios en l'occurrence, qui
peuvent jouer juste de la musique en anglais, puis c'est pas grave.
Ouais, c'est ça, là. Ouais.
Mais faut quand même pas oublier que nos radios, cependant, ont aussi une version web.
Oui,
donc,
oui.
Ce ne sont pas des radios web, mais ils sont tous accessibles à travers du web, là, donc.
Absolument.
Pierre, en quoi consiste le rôle de la radio communautaire?
Ben, dans le fond, le rôle de la radio communautaire, c'est de partager de l'information essentielle à sa communauté, par et pour, comme je disais tantôt, la communauté, d'être le reflet de sa communauté, d'être l'image de sa communauté, de permettre des talents aussi émergents.
Mm-hmm.
C'est pas toutes les radios qui jouent de la musique émergente. Et quand je dis talent émergent, il y a aussi les employés des radios communautaires.
Oui.
On a des journalistes en herbe, on a des animateurs en herbe, puis souvent, c'est des employés ou des gens qui doivent faire leur premier pas à travers de la radio communautaire pour aller chercher une reconnaissance, parce qu'on sait que les radios privées prennent un petit peu moins de chance avec ces gens-là. Donc, la radio communautaire, elle a un mandat un peu d'école aussi pour...
D'école après l'école.
Ouais. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on apprend le côté technique, mais après ça, on a le côté pratique, puis les radios communautaires le font. Nonobstant, c'est pas des talents négligeables, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une très bonne base, mais ils ont une expertise, ils sont suivis, puis on sait tous que la radio communautaire, c'est un tremplin, donc ils viennent faire leur preuve ici, et par la suite, bon, on les voit dans des grands marchés, puis...
Mais tu sais, tu peux faire des erreurs, puis c'est pardonné, là.
Ben, c'est une
quand t'arrives dans un grand marché, ben, t'as plus vraiment le droit à l'erreur, là.
Exact. Puis comme c'est une radio de communauté, on a beaucoup de bénévolat qui se fait aussi à l'intérieur de ça. Donc, on a des animateurs qui ont presque aucune expertise, mais qui ont une passion pour quelque chose en particulier. Puis en bout de ligne, ça s'apprend, là, la technique radio et tout ça, là. Moi, j'ai des côtes à manger, c'est pour ça que je suis pas animateur. mais pour quelqu'un qui a cette base-là, c'est souvent, ça avance très rapidement. Puis on le sait souvent, hein, j'ai été DG d'une radio communautaire. Puis quand on a un talent puis on l'entend en onde, on le sait que tôt ou tard, le téléphone va sonner avec des bonnes conditions et tout ça. Mais ça fait partie du jeu. Donc, on est l'école après l'école.
Ce que je trouve drôle avec la radio communautaire, c'est qu'il y a bien des affaires qui se font de façon régulière, que quand tu le transposes dans le domaine de la radio commerciale, ils font tout un gros stunt avec ça. Comme par exemple, ils vont dire « Oh, c'est la découverte de la relève musicale de grosses radios du gros centre urbain ». Puis nous autres, dans les radios communautaires...
On fait ça tous les jours.
Ouais, tous les jours, tu sais, on fait jouer, par exemple, du Lisa Leblanc, puis Damien Robitaille, on l'a découvert des années avant qu'il commence à jouer à Montréal puis dans les grands centres. C'est un peu spécial quand même. Je pense que ça, c'est dans le mandat, justement, comme tu disais.
C'est dans le mandat, puis c'est une question de survie de notre francophonie au Canada, parce que si les radios commerciales veulent jouer du pop, puis jouer de l'américain, jouer de l'anglophone, tôt ou tard, notre artiste francophone, un va perdre l'énergie de vouloir s'investir dans sa langue, puis au bout de la ligne, la popularité embarquera pas là-dedans. Donc, nous, on leur donne une chance. C'est souvent là que ça part. Là.
Puis, t'es le reflet de ta communauté.
Exact.
Alors, ta communauté, ça inclut tout le monde, incluant les artistes.
Exactement, exactement.
On fait cette entrevue-là, on l'a dit d'entrée de jeu à l'occasion ou en marge de la Journée mondiale de la radio qui se déroule le 13 février. Il y a plusieurs personnes qui discutent ou en fait qui remettent en doute l'importance des médias, disons-les, traditionnel, télévision, journal et nommément la radio en l'occurrence. On la voit où la radio et par extension la radio communautaire, disons dans un horizon plus ou moins à moyen ou long terme là, si on veut.
Ben, contraire à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, la radio est pas prête de disparaître. Les radios sont dans les voitures, donc matin et soir, elle nous accompagne, nous dit par où passer, nous dit la température, nous donne les nouvelles, les grandes lignes des nouvelles. Malgré ça aussi, comme je vous disais, c'est un moyen d'aller chercher aussi de la musique émergente, d'aller écouter une musique qu'on n'entend pas nulle part ailleurs. La radio a toujours été le véhicule, un des véhicules primaires dans certaines crises et tout ça. On vient de passer la pandémie et on a fait des recherches et des sondages et on s'est aperçu qu'il y avait 16% d'augmentation de gens qui se sont mis à écouter la radio pendant la pandémie. Donc, c'est là qu'on savait où étaient les centres de vaccination, où on pouvait aller chercher certains besoins, les masques et tout ça. Il y avait des indications que la majorité des autres médias, malheureusement, ne couvraient pas en tant que région, mais en tant que province. Donc, ça a toujours un côté patelin en tant que tel, une radio communautaire. Donc, quand ces gens-là se tiennent ensemble, la radio survit à ça aussi. Puis malgré qu'il y a des podcasts, du podcast qui se fait ou de la balado-diffusion, si vous me pardonnez l'expression anglophone, le streaming et tout ça, la radio demeure quand même le média de choix. À 39% de toute l'écoute qui se fait en ce moment audio se fait encore à travers de la radio. Donc, on n'est pas prêt de voir ça disparaître.
C'est un signe, hein, je veux dire. La radio, on l'a vu pendant la pandémie, comment elle était importante pour les communautés. Et tu regardes dans les trousses de tous les gouvernements, à la troisième ligne, les trousses d'urgence, c'est « Ayez une radio à batterie ou à manivelle ». Pourquoi? Parce que quand tout arrête, qu'est-ce qui reste debout? Ouais. C'est la radio. Puis on l'a vécu dans tellement d'occasions, que ce soit des tempêtes de verglas, que ce soit la COVID. Je veux dire, on le voit, la radio, elle est essentielle.
Journée mondiale de la radio, 13 février. Oubliez pas, veille de la Saint-Valentin. Pensez à acheter les roses pour madame. Et en même temps, vous pensez...
Et aux employés.
Et aux employés. Ben non, moi, les roses, c'est très, très peu pour moi. Mais vous pensez en même temps que la journée, cette journée-là, donc le 13 février, c'est la journée mondiale pour ouvrir votre radio puis écouter le travail, entre autres, des radios communautaires.
Oui. Absolument.
C'est ça. Pierre Sicard, directeur général de l'Alliance des radios communautaires du Canada, et je pense que le rang supérieur, c'est patron de François
ouais, c'est ça.
Et de Simon. Merci, Pierre.
Merci, Pierre.
Merci à vous deux.
Peut contenir des infos.
Un énorme merci à notre patron, Monsieur Pierre Sicard, directeur général de l'Alliance des radios communautaires du Canada, qui compte, Simon,
28
stations dans 7 provinces qui débordent sur une 8e, l'Île-du-Prince-Édouard.
OK.
Et 2 territoires.
Wow, mine de rien.
Oui, c'est coast to coast to coast.
Oui, absolument.
Les trois.
Absolument.
Oui, coast to coast.
Ah oui, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, oui. Puis il y en a même dans l'océan Arctique avec la présence au Nunavut.
Oui, c'est ça.
Et la raison pour laquelle on le recevait, évidemment, pour ceux qui nous attrapent
au vol... Il y avait une bonne raison, parce qu'habituellement, on ne l'inviterait pas, là.
Parce que faire de l'autoplug comme ça,
c'est ça, non.
Pas nécessairement, mais c'est parce que la Journée mondiale de la radio est célébrée chaque année, le 13 février. Mm-hmm. Et on aurait tendance à croire qu'avec l'invention de la radio qui remonte à plus d'un siècle, que la Journée mondiale de la radio existe depuis des décennies. Et pourtant, la Journée mondiale de la radio n'a été proclamée qu'en 2011.
Ça fait ça fait pas tellement longtemps.
Non, ça fait pas tellement.
C'est comme 12 ans, ça, là.
Ouais, c'est ça. Ce sont les États membres de l'UNESCO qui avaient désigné cette journée-là du 13 février comme Journée mondiale de la radio, et elle a été adoptée par la suite par l'Assemblée générale des Nations unies, donc qui a officialisé, entre guillemets, la chose en 2012. Ça fait donc seulement, tu l'as dit, là, à peu près une douzaine d'années qu'on célèbre. C'est la 12e édition cette année. Le thème de cette 12e édition, incidemment, c'est Radio et paix.
Radio et paix cette année.
Ouais, parce qu'on sait que la radio, des fois, ça a servi à mauvais escient. Il y en a qui s'en sont servis comme des instruments de propagande.
Oui.
Mais ça a surtout servi à la paix.
Oui.
Hein, pour disséminer de l'information à des gens qui sont, par exemple, réfugiés, les informer de la situation dans leur pays ou ailleurs à travers le monde.
Et avec la situation actuelle, je pense qu'on en a besoin.
Oui, ben écoute, juste en Ukraine, là, les gens qui se font déplacer, qui s'en vont dans d'autres pays, sont bien contents d'avoir la radio pour leur jouer, par exemple, de la petite musique de par chez eux, leur donner de l'information, comment ça se passe et tout ça. Alors, c'est dans ce sens-là que cette année, on a mis justement l'accent sur cette thématique-là.
Bonne idée.
Le thème, c'est Radio et paix. Bonne journée mondiale de la radio, le 13 février, à nos radio-membres, évidemment, et à vous autres, mesdames, messieurs, qui la faites vivre en l'écoutant.
C'est ça, exactement. Oui.
Évidemment. On s'arrête pour une pause, on revient dans un instant. Restez branchés, vous êtes à peu contenir des infos.
Cette émission peut contenir des infos.
Avant la pause, tantôt, François, on a discuté avec Pierre Sicard, qui est le...
Directeur général de l'Alliance des radios communautaires du Canada.
Oui, c'est un type qu'on connaît quand même un peu.
Juste un petit peu.
Et une organisation également qu'on connaît un peu aussi.
Oui.
Parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille pour.
Oui.
C'est ça. Alors, on a parlé de façon générale de médias traditionnels, de la radio plus particulièrement à l'occasion de la Journée mondiale de la radio qui a lieu chaque année le 13 février. Mais on se cachera pas, dans le domaine des médias, il y a aussi un pan qui s'appelle...
L'Internet,
les nouveaux médias.
C'est ça.
Et parmi ces entreprises qui sont très, très marquantes ou dont l'empreinte est vraiment très flagrante...
Oui.
Il y en a une.
Oui, avec deux gros O.
Ouais, puis je sais pas comment elle s'appelle, là.
Google.
Ouais, c'est ça, Google. Google, OK, oui, c'est une compagnie qu'on a connue à l'origine comme un moteur de recherche.
Oui.
Mais c'est rendu maintenant...
Tellement plus.
Bien plus que ça.
Oui, c'est tellement plus que ça.
Et il y a en ligne quelques sites qui recensent les... disons, les produits, les services qui ont été créés...
Par Google?
Google, mais surtout tués par Google.
Oh!
C'est étonnant.
Oh!
Parce que Google, écoute, quand... eux autres, ils fonctionnent beaucoup par, je sais pas, essai-erreur, on va dire, entre autres choses.
Oui.
On pense à quelque chose, on l'essaye. puis ça fonctionne pas.
Ben, après un mois,
on le scrappe. Oui. Puis il faut dire aussi que dans la culture de l'entreprise de Google, il y a aussi cette possibilité qui est offerte aux employés, aux salariés, mm-hmm. de quand ils ont eux-mêmes des idées, pas seulement que ça vient de la boîte là, elle-même, mais oui. tu sais comme je sais pas moi, t'es programmeur ou quoi que ce soit de genre, tu me semble ça serait pas pire une affaire que qui compterait le nombre de roches sur le bord du chemin quand tu ferais juste passer ton téléphone cellulaire, mettons.
OK.
Ben ils ont la possibilité à temps perdu
de monter le programme.
Ouais, d'essayer de faire ce genre d'affaires là.
Ah, c'est cool.
Ça fait que ouais. certaines affaires qui finissent par réussir
et d'autres
puis d'autres qu'on scrappe.
Oui.
Le site dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais être honnête, là, c'est pas le seul. Il y en a quelques-uns. Okay. Il y a G Cemetery, entre autres, et tout ça, pour nommer que celui-là. Mais celui dont je vous parle, il s'appelle killedbygoogle.com. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est certainement l'un de ceux qui en recense le plus de ces services et de ces produits.
J'ai comme l'impression qu'on va être étonné du nombre.
Ben là, jusqu'à présent, il recense le site killedbygoogle.com.
Oui.
Plus de 280 produits et services de Google qui ont été littéralement tués et enterrés, là. Et même souvent prématurément.
Oui.
Et pas toujours pour des raisons qu'on comprend.
Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas à l'interne, là, mais je veux dire.
Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, par exemple, j'étais à une certaine époque, quand ça a été fermé, j'étais un grand utilisateur de Google Plus.
Oui, Google Plus, oui.
Un réseau social qui...
Je l'aimais bien, celui-là.
Qui devait, en principe, compétitionner contre Facebook et contre Twitter. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait cette notion de cercle qui permettait, entre autres choses, d'avoir des cercles d'amis, de collègues de travail, de famille et tout ça. Ouais. Puis de s'adresser à chacun d'entre eux dans la même plateforme sans que mélanger les affaires.
Ouais.
Si tu parlais, par exemple, de travail avec des gens qui sont des passionnés de radio, par exemple, mm-hmm. ben, tu parlais juste à eux autres. T'achalais pas les membres de ta famille.
C'est
un peu ça. Puis on n'a jamais compris pourquoi. Puis à un moment donné, on fait comme
C'est fini.
Je présume que parce qu'il y avait pas assez de monde, je joue pas trop, mais en tout cas. Alors, il y a des dizaines d'applications, plus de 200 services et même des produits matériels aussi qui ont été tués.
Oh.
Parmi les plus récents.
Oui.
Google Stadia.
Google Stadia.
Ouais. Google Stadia a existé de 2019 à 2023, quand même pas pire.
Ouais.
4 ans environ. C'était un service de jeu en ligne.
Ah, OK.
Ouais, et ça permet...
Ça, je le connais pas.
Non, OK. Alors, ça permettait aux utilisateurs de jouer et de diffuser des jeux, donc sur leur navigateur web, leur téléviseur ou encore des applications mobiles. Et ça se jouait dans le cloud.
OK.
Ce qu'on appelle l'info nuagique, là. Donc, t'avais pas le jeu à proprement parler chez vous. Il était comme dans le nuage.
OK.
Puis tu jouais dans le cloud, simplement. C'est drôle parce qu'il y a plein d'autres compagnies qui se lancent là-dedans, tu sais, Amazon et compagnie. Puis eux autres, je sais pas pour quelle raison, ils ont dit «
Non, ça ne t'intéresse pas. »
On ferme ça, spécial.
Ouais.
Google Hangout.
Oui.
Oui. Il a existé de 2013 jusqu'à l'année passée, 2022.
Oui.
Et c'est un service de messagerie instantanée multiplateforme qui n'aura même pas vu sa 10e année de vie.
Non. Et j'ai jamais... Puis je comprends pas pourquoi ils l'ont scrappé, là, parce qu'il fonctionnait, là.
Mais Google, c'est comme ça. Des fois, à un moment donné, là, tu vas te retrouver avec 4-5 mêmes affaires qui font sensiblement la même chose à peu de différence près, là.
Ouais.
Puis, tout à coup, ils font comme... C'est comme s'ils faisaient... Non, celui-là, on l'aime pas, on le détruit.
Ben, c'est sûr qu'avec message, leur messagerie, là...
Et Google Bookmark, mort et enterré il y a plus d'un an, en 2021, c'était un service de marque-page qui a existé pendant quasiment 16 ans.
Wow.
D'un coup, ils ont tiré la plug là-dessus. Ça permettait de conserver nos adresses préférées de sites web en ligne plutôt que dans le navigateur.
Ah, OK.
Mais là, je vais vous parler de deux autres projets qui figurent là-dedans.
Ouais.
Puis vous allez voir que ça n'a pas duré longtemps. j'en ai parlé d'eux hier. Ouais. Google Photoprint.
Oui.
Ça, c'est spécial.
Ah, celui-là, il était quelque chose.
Ça a été lancé en 2020. Google Photoprint, c'est un service qui sélectionnait automatiquement les 10 meilleures photos des 30 derniers jours d'un utilisateur, des photos qui étaient stockées dans le service de Google Photos, évidemment. Mm-hmm. Et on envoyait ça en version imprimée au domicile de l'utilisateur. On disait, celle-là, parce que l'intelligence artificielle, je sais pas trop, celle-là, les autres, ces 10-là, ils ont l'air pas pires, ils ont l'air bonnes. Et sais-tu après combien de temps le service a été éliminé? 5 mois.
Après 5 mois?
5 mois.
Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont eu des méchantes surprises, ces photos qu'ils ont su.
Pense-y deux secondes. Tu fais téléchargement automatique dans le cloud, dans Google Photos, parce qu'il y a ça, cette fonctionnalité-là dans les téléphones.
Oui.
Tu, automatiquement, tu prends une photo, puis c'est stocké dans le cloud.
Oui. Puis si tu le désactives pas quand t'achètes un téléphone, là, c'est automatique.
Puis là, t'écoutes, tu reçois 10 impressions photo chez vous, à ton adresse que t'as entrée avec ta facturation. Puis tu fais comme, oh!
Oh!
Oh boy! Ouais. Je pensais pas que j'avais pris une photo comme ça.
Ouais.
Hein? 5 mois. Ils sont aperçus que...
C'était peut-être pas une bonne idée.
C'est pas vrai.
Non.
Et je vais finir avec Google Audio Ads. As-tu connu ça? Non, hein? Mort et enterré depuis 14 ans. Ça a pas duré longtemps non plus. C'était un service qui permettait aux annonceurs, mais je trouve ça quand même assez intelligent comme système. Les annonceurs pouvaient acheter du temps d'antenne et faire jouer des campagnes publicitaires à la radio AM et FM aux États-Unis en utilisant l'interface de Google AdWords.
Oh!
Ouais, un peu comme, par exemple, un annonceur peut acheter des espaces en ligne sur le web, tu sais, dans des sites web, des trucs du genre. Il y avait une patente, il y avait une façon de fonctionner qui permettait aux annonceurs d'annoncer à la radio AM et FM. Tu dis, moi, je vais acheter, mettons, comme 40 spots.
C'est comme une maison de représentation, dans le fond.
Ouais. Google AdWords. Ah. Puis, le service n'avait, malheureusement, que 7 mois quand on l'a interrompu. C'est une autre idée qui est passée à la trappe assez rapidement. Ça s'appelle killedbygoogle.com, K-I-L-L-E-D by Google.com. Vous allez faire des trouvailles-là intéressantes.
Oui, sûrement. notre studio, nous autres, donne sur le centre-ville d'Ottawa.
Centre-ville d'Ottawa.
Bon, il y a un building juste à côté. OK, on met un fil d'ici à l'autre bord.
Non.
Tu marcherais-tu jusqu'à l'autre bord?
Non.
Mais
j'ouvrirais même pas la fenêtre pour me mettre sur le bord.
Non, moi non plus. Mais il y a un gars qui fait ça, par contre. Puis il établit bien des records.
Okay.
C'est Raphaël Bridy qui a battu un record au-dessus des gratte-ciels de Sao Paulo. Ah non, je sais. il est spécialiste de ce qu'on appelle le High Line. Donc, c'est comme une corde dans les airs.
Ouais.
Il a parcouru... Tiens-toi bien, 510 mètres sur une corde tendue entre deux hauts immeubles de Sao Paulo.
OK, haut de combien? C'est ça que je veux savoir.
Et il a, ta minute, j'arrive là. Il a battu un record de distance en zone urbaine pour les Amériques. Notre ami funambule, au pied nu, by the way, il a 35 ans, il a parcouru en 25 minutes cette distance-là, au 114 mètres d'altitude.
Ben non.
114 mètres? 114
mètres,
Simon.
My God, le plus haut que j'ai été, moi, c'est de me pendre après la corde à linge du voisin pour jouer à Tarzan ou à Superman.
Puis on a eu peur.
Puis j'ai eu peur, parce que j'ai cassé la poulie. Fait que je me vois pas en haut d'un building à 114. Aïe, aïe, 114 mètres.
Je comprends pas, là, mais... En tout cas, il est spécialiste des traversées en haute altitude et détenteur de records dans le livre Guinness. Il a fait une petite chute.
Hein? Non.
T'as vu? Ouais. Il a fait une petite chute. Mais non, ils sont pas attachés.
Ben non, tu me niaises.
À peu près à la moitié de la traversée, oui. Je pense qu'ils ont quelque chose, là. Mais il s'est assis sur la corde, puis après ça, il s'est relevé. Puis il a continué comme si de rien n'était.
Quelqu'un m'a arrêté. Pas de joke, là.
Mais lui, il est beaucoup plus familier avec les performances en pleine nature.
OK.
Écoute bien ça. En 2021, Monsieur Brady avait fait une traversée spectaculaire que j'ai vue dernièrement sur Discovery Channel entre deux montgolfières à 1901 mètres d'altitude.
OK, tu m'as fait freaker avec ton 114. Okay, puis là, tu m'es arrivé avec un kilomètre de hauteur, 1000 mètres, là, tu sais, c'est comme...
Mais là, il y avait un parachute.
J'espère.
Mais même à ça,
là, t'es un parachute.
C'est pas grave, là.
T'es à 114 mètres, là.
À 114 mètres, tu te pètes la gueule, là.
Ben, je comprends, tu fais
la gueule. Ah oui, parce que t'es quoi, 400 pieds, 300-400 pieds? Non, tu te pètes royalement le museau. Mais à 1901 mètres, ben là, t'as le temps d'ouvrir ton parachute et de, pis c'est exactement ça qu'il a fait, là. Il s'est garoché en bas après qu'il a réussi, là. Mais quand même, là, tu sais, t'as deux montgolfiers. Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est que t'as les deux montgolfières. Okay? Ils sont rattachés avec une corde. Mais il faut que tu gardes la tension parce que sinon, lui, il peut pas marcher correctement. Fait que, en tout cas, il avait réussi à accoter les deux ballons ensemble en haut pour pouvoir rester à la même, tu sais,
distance.
À la même distance.
La même tension.
Oui, c'est ça, la même tension pour sa corde. Ben, en tout cas, ça fait 10 ans qu'il pratique ça et il a aussi en 2020, écoute bien ça, il avait marché au-dessus d'un volcan en activité au Vanuatu. C'était une première dans le monde. Je sais pas. Première dans le monde. Ben oui, toi. Il y a bien du monde qui va se promener sur une corde au-dessus d'un.
Allons.
Ouais, il s'entraîne sur un slackline 3 fois par semaine. Il pratique la course à pied, le surf, le vélo, l'escalade et le canoë. Ouais. Mais
chacun ses passe-temps.
Ben, oui, chacun ses passe-temps, chacun ses passions. Pour lui, c'en est une passion. Je la comprends pas. Quand même que j'essaierais de me voir.
Non, moi non plus, je suis pas capable. Mais...
tu sais, je me suis déjà garoché en bas d'un toit d'une unifamiliale avec un parapluie, puis j'avais pas trouvé ça très drôle quand j'atterris.
Non, je comprends.
Tu sais, je peux imaginer ce monde-là. Là. Non.
Bon, on s'arrête pour une courte pause. On revient dans un instant avec une entrevue sur un ton beaucoup moins léger, si on veut, puisqu'on va parler du décès qui est survenu le 28 janvier dernier d'une grande dame des arts et de la culture à travers le pays, Madame Viola Légère. Restez là, on revient dans un instant.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Le 28 janvier dernier, j'allais dire l'Acadie, mais je pourrais dire par extension le Canada. On a perdu une grande dame. Ça a été l'une des grandes artistes acadiennes. J'oserais même presque dire un monument du théâtre.
Je pense que oui.
Des arts de la scène de façon générale. C'est la comédienne Viola Légère qui est décédée à l'âge de 92 ans. On sait qu'elle s'était retirée depuis quelques années de la vie publique parce qu'elle avait eu un AVC, un accident vasculaire cérébral en 2017 et depuis elle s'était retirée. Mais l'avoir perdue comme ça à l'âge de 92 ans, ça a été quand même un grand choc dans la communauté artistique de façon générale et plus particulièrement du côté de l'Acadie.
Ben oui, parce que Madame Légère, c'est la Sagouine.
C'est la Sagouine, voilà.
C'est la Sagouine, tout le monde se souvient. Y a-t-il un personnage au théâtre qui a marqué plus que la Sagouine?
Ouais, il y a des personnages comme ça qui deviennent plus grands que nature, comme
c'est
on dit.
C'est ça, exactement.
Exactement. On a l'occasion aujourd'hui de parler avec quelqu'un qui a eu l'occasion de la côtoyer de façon assez régulière. C'est Madame Monique Poirier. Elle est la co-directrice du Pays de la Sagouine et au cours des prochaines minutes, on va s'entretenir un peu avec elle à propos de cette grande dame qui est disparue récemment, Madame Viola Légère. Bonjour Madame Poirier.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette entrevue, Madame Poirier. Vous êtes donc la co-directrice, on l'a dit, du Pays de la Sagouine au Nouveau-Brunswick. C'est un centre d'interprétation culturelle et historique, en quelque sorte, sur l'œuvre d'Antonine Maillet et la culture acadienne de façon générale. Vous avez côtoyé Madame Légère, qui a donc incarné ce rôle dont on parlait, la fameuse Sagouine, pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, Madame Poirier, à propos de Viola Légère? Parlez-nous un petit peu d'elle.
Oh, c'est tellement une grande question. Ce qu'on devrait retenir de cette femme extraordinaire qui était Viola Légère et qui a donné vie à un personnage à un point tel que ces trois femmes, vous savez, c'est Antonine Maillet qui a écrit, qui a créé ce personnage-là. Ensuite, il y a la comédienne Viola Légère qui lui a donné vie. Et ensuite, il y a la Sagouine. C'est vraiment comme si c'était trois personnes distinctes, tellement que Viola Légère a donné vie à ce personnage-là. Elle ne jouait pas la Sagouine, elle vivait la Sagouine. Puis je pense que c'est pour ça quand vous dites que c'est un monument, quand vous dites est-ce qu'il y a déjà eu un personnage qui a marqué autant au théâtre. Quand en entrée d'émission, vous avez dit que c'est tout le Canada qui vit ce deuil-là, mais c'est vrai. C'était un personnage qui était plus grand que nature, puis qui dépassait largement les frontières de l'Acadie. Moi, ce que je retiens, ben, c'est sûr que c'est la qualité de son talent, c'est sûr, mais c'est sa rigueur, c'est sa discipline. C'est de se donner corps et âme comme ça à son métier. Puis c'est aussi, moi, ce qui m'inspire énormément, c'est qu'elle a commencé à interpréter ce rôle-là, qui est devenu un des rôles les plus importants au théâtre francophone au Canada. Elle a commencé alors qu'elle était dans la quarantaine. Elle était enseignante. Mmh. Puis ce que je reçois de cet exemple-là, combien de personnes qu'on connaît, là, rendues dans la quarantaine ou dans la cinquantaine ou la soixantaine, vont dire « Ah, oh, ben, c'est bof, il est trop tard. » Il est trop tard que je développe telle chose ou que j'entreprenne telle chose ou que je me donne la permission de faire un changement de cap. Et elle, dans la quarantaine, a entrepris ce projet-là pensant qu'elle allait interpréter le personnage pour 4 spectacles. Puis aujourd'hui, ben, c'est 3000 et plus fois qu'elle a interprété le spectacle. Elle a marqué un pays au complet. Elle a changé ce que ça veut dire faire du théâtre. Ça, je trouve ça extraordinaire comme exemple.
Absolument. Alors, comment est-ce qu'on lui a confié ce rôle-là de la Sagouine?
Ben, pour avoir entendu souvent Antonine Maillet parler de toute cette création-là, Antonine Maillet et Viola Légère étaient de grandes amies. Puis quand Antonine a créé ce rôle-là, je pense qu'elle demandait souvent à Viola d'en faire la lecture des manuscrits. Puis quand est venu le temps de présenter... Puis je pense que c'était à Moncton la première fois là de présenter cette pièce-là. Ben, elle a demandé à Viola de le faire. Puis comme je le disais tout à l'heure, Viola pensait qu'elle allait présenter ça 4-5 fois. Puis c'était tout là. Et puis j'ai tellement trouvé ça beau. J'ai entendu un extrait dans les dernières journées où Viola disait moi, je suis arrivée avec un texte que les gens avaient besoin d'entendre. Avec moi et la personne que je suis qui donnait vie à ce texte-là et que les gens avaient envie de voir. Et la combinaison des deux, ben, ça a été cette magnitude-là qui est devenue la Sagouine.
Madame Poirier, on a l'impression qu'elle incarnait tellement la Sagouine que j'avais jusqu'à une certaine mesure de la difficulté un petit peu à distinguer qui était Viola Légère et qui était la Sagouine.
Oui.
Tu sais, il y avait un petit peu de la Sagouine dans Viola Légère, on dirait, puis il y avait un petit peu de Viola Légère dans la Sagouine. Est-ce qu'on se trompe en disant qu'on avait cette impression-là un petit peu quand on la voyait aller?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Puis c'est fascinant parce que au début de la quarantaine, quand elle a commencé à interpréter ce rôle-là, le personnage de la Sagouine est à 70 ans, là, 70 ans ou 72 ans, puis elle a commencé dans la jeune quarantaine. Donc au début, il fallait qu'il y ait un maquillage, qu'elle essaie de se vieillir pour rendre le personnage encore plus crédible. Puis elle a vieilli, elle a évolué jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge du personnage et ensuite, elle a porté le personnage encore plus loin. Ça fait qu'inévitablement, Viola Légère est devenue une partie de la Sagouine et vice-versa. Ce que je trouvais difficile, moi, parfois, puis malgré le grand talent de cette comédienne-là, c'est dès que je la voyais jouer un autre rôle, j'avais l'impression que je voyais la Sagouine qui jouait un autre rôle. Puis ça, j'imagine pour les comédiens qui nous écoutent, quand on joue un rôle et que le personnage est beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et qu'il y a une grande résonance dans le public, ça doit parfois être difficile de jouer d'autres rôles puis de sans cesse se faire comparer ou de se faire rappeler à ce personnage-là. Là.
Oui, puis vous l'avez mentionné, les gens l'aimaient tellement. C'est quoi votre meilleur souvenir de Madame Légère?
Oh, mais j'en ai beaucoup. moi, j'ai évolué pour plusieurs années avec une production musicale qui rend hommage à la musique acadienne, une production qui s'appelait Ode à l'Acadie.
Oh, oui.
Et à un moment donné, on a fait un spectacle et Viola était notre artiste invitée. C'était un spectacle de Noël. Et elle venait faire le monologue Noël de la Sagouine. Puis à la fin du spectacle, elle enlevait son costume, elle s'habillait en Viola Légère. Puis elle venait nous trouver pour la dernière chanson du spectacle. C'était une chanson qui s'appelait « Si tu ouvrais les yeux ». Puis Viola Légère, c'était pas une chanteuse. mais elle arrivait sur scène à la fin de la chanson et elle interprétait deux phrases. Et la première fois qu'elle est arrivée sur scène et qu'elle a fait les deux phrases, moi, les deux bras m'ont tombé, là. C'était comme avoir la vérité humaine dans la face. Tellement que tout ce qu'elle faisait sur scène, même ses silences sur scène, étaient habités d'une grandeur, là, de ça a été un des moments marquants pour moi de la voir dans deux phrases, ce qu'elle avait été capable de donner puis de porter.
Et on l'a dit tout à l'heure, son personnage était presque plus grand que nature. Je veux dire, il dépassait Viola Légère en quelque sorte, mais elle a quand même trouvé le tour d'embrasser, si on peut dire, une autre carrière, enfin, brièvement, s'entend, là, pendant 4 ou 5 années de sa vie. Elle a été sénatrice de 2001 à 2005 jusqu'à l'âge de la retraite à 75 ans. Évidemment que ce côté-là, ça vous a peut-être moins touché que le côté de la comédienne, mais si on parlait un peu de ce rôle-là, qu'est-ce que ça a eu comme impact, si on peut dire, sur les gens en Acadie, le fait que cette dame-là devienne sénatrice?
Je pense que, comme plusieurs Acadiens, ça m'a énormément touchée de voir que cette comédienne-là, cette artiste-là, soit appelée, soit invitée, soit choisie à devenir sénatrice. Nous, ben, je peux pas parler au nom de l'Acadie, là, mais c'était une voix. C'était une voix au Sénat qui nous représentait. Je la voyais faire son travail au niveau des langues, de la culture, de l'importance des arts, l'importance du français. Puis je l'ai vue donner des conférences ou donner des allocutions comme sénatrice. Et à chaque fois, elle terminait son discours ou sa conférence avec une citation tirée d'un livre ou d'un poème ou d'une pièce de théâtre ou même une chanson francophone canadienne. Pour tu sais, toujours rappeler l'importance des arts et de la culture, de la langue. Je l'ai vu donner une conférence à un moment donné et à la fin, elle a récité quelques couplets de la chanson « Jack Monoloy » de Gilles Vigneault. Puis c'était prenant, là. Elle avait tellement de présence en s'adressant aux gens comme Viola ou comme La Sagouine. C'était une ambassadrice extraordinaire, vraiment, comme profondément fière de sa culture, de sa langue, puis porteuse aussi de cette fierté-là.
Madame Monique Poirier, co-directrice du Pays de la Sagouine, visiblement, vous en gardez de très bons souvenirs. Et nous aussi, oui, comme spectateurs, oui, comme public, on gardera de grands souvenirs de cette grande dame qui est disparue le 28 janvier dernier, Madame Viola Légère. Merci beaucoup, Madame Poirier.
Ah, merci à vous d'avoir pris le temps d'en parler. Puis je pense que vous faites du bien à beaucoup de gens en faisant ça.
Merci.
Ça fait plaisir, merci.
Merci, au revoir.
On peut contenir des infos.
Merci à Madame Monique Poirier, qui est co-directrice du Pays de la Sagouine, pour cette entrevue sur Madame Légère. C'était vraiment intéressant comme entrevue.
Ouais, on a appris de belles choses sur cette dame qui nous a quittés il y a quelques jours de ça, à la fin du mois de janvier. Si vous voulez nous écrire, soit dit en passant, pour commenter un sujet d'actualité...
On peut le faire?
Les gens peuvent nous écrire, absolument.
Ah oui?
Il y a une belle technologie aujourd'hui qui s'appelle le courrier électronique. Ça fonctionne, c'est beaucoup plus rapide que de nous écrire une
lettre. Mais faut-tu mettre un timbre?
Pas besoin de mettre de timbre.
Ah non?
Seule condition, c'est d'avoir une connexion Internet.
Ah, OK. Ouais,
parce que tu payes sur Enter autrement, puis ouais, ça ne rend pas.
Ça marche pas?
Oui, il faut être connecté sur Internet. L'adresse pour nous écrire, c'est pcdi@radiorfa.com. Donc, PCDI comme peut contenir des infos.
Ah.
Et si vous voulez commenter l'actualité...
C'était bien pensé.
Peut-être avez-vous... Oui, c'est bien pensé. Je sais qui a pensé à ça. pcdi@radiorfa.com. Si vous voulez commenter, par exemple, un bon souvenir que vous avez de Madame Légère, si vous voulez commenter notre performance à nous autres, quoi que ce soit, écrivez.
Mais soyez gentils, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, soyez gentils, soyez indulgents. On commence. on va s'arrêter pour une courte pause. On va revenir dans un instant avec la suite de notre émission peut contenir des infos, en vous remerciant à vous autres qui êtes là, présents à chaque semaine aux quatre coins du pays, sur l'une des radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada.
Cette émission peut contenir des infos.
On a tous un véhicule, ou deux, ou trois, ça dépend des familles.
Chez nous, c'est deux.
C'est deux.
Il y en a un qui est moins utilisé. Ben, je dis qu'il est moins utilisé que l'autre.
Bah, ouais, tu t'en sers presque pas, là.
S'en sert pratiquement pas ni de l'un ni de l'autre, là, mais.
Mais quels sont les véhicules les plus vendus au Canada? Nous, on sait ce qu'on a, là, mais quels sont les plus vendus au Canada? Et on va faire le tour pour l'année qu'on vient de passer, 2022.
OK.
Oui. Je dois vous dire en partant que il y a eu une grosse chute de la vente des on a même atteint un total annuel qu'on n'avait pas vu depuis la grande récession de 2009 là, tellement qu'il s'en est moins vendu là.
Oui, c'est ce que Marc Bouchard nous avait témoigné
récemment.
C'est ça,
exactement, parce que bon, la chaîne d'approvisionnement bien sûr, mais aussi bon, l'inflation et tout ça là fait que et les véhicules neufs, bon, ça commence à être relativement dispendieux un véhicule neuf. Autre fait à souligner pour l'année 2022, la Toyota Corolla.
Ah,
hein, qui a mis fin à un règne de 24 ans de la Honda Civic comme la voiture la plus populaire au pays. Et ça faisait 24 ans en ligne que la Honda Civic était la voiture, la berline, la plus vendue au Canada.
Quand tu m'as parlé tantôt, c'est à peu près ce que j'avais pensé, là, ce que j'avais en tête. Je m'étais dit, ça doit être encore la Honda Civic. Mais non, elle a été détrônée.
Oui. Mais, OK, ils sont pas numéro un dans le top 10 ben, des ventes.
Mais ils sont numéro 2, genre?
Ben, tu vas voir, on va arriver
okay.
là.
Okay.
En passant, la Tesla Model 3, qui a dominé le marché de l'électrique l'an dernier, se retrouve à quelques 10 000 unités de la 10e place.
Oh!
Les véhicules électriques ont représenté 10 % des ventes mondiales en 2022. 10 %.
Ça sent bien.
Oui, c'est tranquillement pas vite, hein. Numéro 10, Hyundai Elantra.
OK.
OK. Oui. Tu vas voir que sur notre liste, il n'y a pas beaucoup de voitures. La Hyundai Kona, qui est un tout petit VU, ouais, qui, elle, se retrouve au 9e rang.
Beau petit VUS. J'aime bien ce que oui. la marque Kia fait, là.
Ouais, moi aussi.
Parce que j'en ai un, là. Un Kia. J'ai un Kia ouais. Sorento, là, mais.
Ouais. Mais Hyundai et Kia, c'est la même.
C'est, ouais, c'est la même affaire.
C'est la même compagnie. Il s'en est vendu 24 579 unités.
Okay.
Mais c'est quand même en baisse de 21 % là. L'année passée des Kona. La Honda Civic.
C'est Hyundai qui fait Kona,
c'est oui,
ça.
Oui.
OK, oui, c'est
oui.
moi, je parlais Kia. Excuse-moi. Oui. J'ai mélangé.
Donc, Honda se retrouve en 8e position avec sa Civic. Il s'en est vendu 29 722 unités l'année passée, une baisse de 31,8%. Mais c'est sûr, les voitures se vendent de moins en moins. Mais en 7e position, le Honda CR-V, qui lui a connu une baisse de 37% l'année passée. La Toyota Corolla se retrouve en 6e position, mon cher ami. Même si elle a connu une baisse de 17,3% par rapport à 2021, il s'en est quand même vendu 33 096 unités au Canada en 2022. Quand même pas si mal, là.
Mm-hmm.
C'est quand même pas si mal. Et le reste, j'imagine que tu dois savoir dans quoi qu'on s'en vient dans les 5 premiers, hein?
Un pick-up, quoi?
Ben, ça sonne pick-up pas mal, hein? C'est pas mal ce qui est le plus vendu au Canada. En 5e position, le GMC Sierra. Et en 4e position, le Chevrolet Silverado, qui sont cousins, finalement.
Mm-hmm.
C'est des petits cousins. En 3e position, le Toyota RAV4. Très populaire. Il s'en est vendu seulement 9,7% de moins l'année dernière qu'en 2021. Il s'en est quand même vendu 55 921 unités. Les RAM.
Ben, c'est parce qu'on envoie, excusez, là, pour ceux qui ont un RAM, là, je veux dire.
T'envoie ça.
Tellement, c'est une affaire terrible.
Oui. C'est en 2e position, il s'en est vendu 75 740 unités en 2022. C'est 3,1% de moins qu'en 2021.
Et attends, je vais essayer de deviner en première position. Je fouille.
Je vais te laisser deviner, là, parce que
Ça serait-tu un F?
Non.
Je vois.
Oh, mon fou.
Ouais, un Ford F-150.
Oui, c'est ça.
Ben oui.
Un Ford F-150. Ben, en fait, c'est les Ford Series F.
Oh, OK.
Qui inclut le F-150, le 250.
OK.
Puis bon. Les ventes totales pour 2022, 114 729 unités. C'est en baisse de 1,4% par rapport à 2022. Donc, ceux qui ont connu les plus petites baisses comparativement à 2021, c'est pick-up.
C'est les pick-up.
C'est les pick-up. Et pourtant, le gaz coûte cher.
Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu singulier dans la mesure où ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu de l'essence à un prix aussi élevé.
Oui.
Et,
mais on continue d'acheter des gros. Puis regarde les vues qui sont les plus vendues. Ben, ça commence avec des vues qui sont moyens à gros.
Ouais. Fort heureusement, remarque, je suis pas équipé pour parler là avec un Kia Sorento qui fait, soit dit en passant, pas si pire là, je veux dire, ouais, comme kilométrage ou en fait comme consommation aux 100 km. Mais je me réjouis en tout cas de voir apparaître tranquillement pas trop vite sur le marché certains véhicules électriques, mm-hmm, qui vont tranquillement pas trop vite, peut-être va-t-on savoir nous. Encore là, je fais pas un jugement contre ceux et celles qui possèdent un gros pick-up là, mais ouais, tu sais, ça consomme, ça pollue, puis
c'est, ouais, ça, c'est sûr que les pick-up, tu travailles dans la construction, ouais, t'as besoin d'un pick-up.
Ben bon, c'est celle de s'en passer là.
Ben c'est ça, oui. Puis même si tu vas dans le bois souvent, des choses comme ça, ben t'as besoin d'un pick-up. J'ai été surpris dans cette liste-là de ne retrouver aucun véhicule Subaru. Parce qu'il me semble, il y en a tellement ces routes des Subaru.
Il y en a beaucoup aussi, effectivement.
Oui. Fait que je pensais qu'on aurait retrouvé les Subaru, mais ils ne sont pas dans les 10 premiers, mais ils se retrouvent dans le top 15, par contre.
En tout cas, on voit une lumière poindre au bout du tunnel quand, ouais, on voit, par exemple, des initiatives comme le Lightning là,
oui,
de Ford.
Le F-150.
Le F-150 Lightning.
Oui.
Qui nous fait dire, finalement, que, oui, c'est pas impossible d'accoucher, non, si on veut, d'une camionnette de quand même un gros format, là, on s'entend,
oui,
là,
oui,
qui fonctionne à l'électricité. Donc, peut-être qu'un jour, à un moment donné, on va se retrouver avec davantage de modèles.
Parce que, ben oui, parce que Silverado va sortir aussi cette année. On a vu une esquisse du Ram qui s'en vient, électrique. Alors,
dans les, oui, VUS, on a parlé avec Marc Bouchard aussi, c'est de ça, l'Equinox là, qui s'en vient. Là.
Oui, 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 c'est ça. Il y en a un tas là, qui s'en viennent au cours des deux prochaines années. Ouais. Alors, on va bien entendu surveiller ça.
On va parler un peu de tourisme.
Oh, du tourisme.
Ouais, du tourisme. Ou en fait, les destinations voyages les plus, excusez l'anglicisme, overrated.
Oh!
Les plus surévaluées à travers le monde.
Mmh.
Et il y a parmi ces destinations quelques villes canadiennes.
Non.
Ouais.
Non. Impossible.
Le Canada attire chaque année, mine de rien, on le sait, des millions de touristes, évidemment. Ah oui. Le pays a des paysages à couper le souffle.
Oui, d'est en ouest.
Ben oui, qu'on aille dans les Rocheuses, la côte, oui, du Pacifique, les chutes Niagara, on va au Cap-Breton, l'Atlantique, oui, l'Atlantique n'en manque pas non plus de ces superbes paysages.
Mm-hmm.
Puis on a des attractions touristiques aussi, oui, qui sont quand même intéressantes, et la Tour CN, par exemple, à Toronto, en tout cas, nomme-les. Mais il y a des endroits qui sont peut-être un peu surévalués. Selon, okay, les touristes.
Oui.
C'est la plateforme UK Casino King qui a compilé environ 10 000 commentaires de personnes,
okay, c'est pas mal,
sur le site TripAdvisor pour dresser, oui, la liste des 85 villes les plus overrated au monde.
Hmm.
Les plus surévaluées en 2023, cette année, là, je veux dire. C'est
pour le tourisme.
Pour le tourisme.
OK.
Et toutes les informations compilées l'ont été avec, disons, l'optique de faire une espèce de pourcentage sur les chances que vous avez d'être déçu en revenant de votre destination. Tu vois un,
okay,
peu?
Oui, oui.
Tu sais, il y a peut-être, on va dire, 80% de chances que tu sois satisfait, mais il y a quand même, à voir les commentaires, il y a un bon 20% de chances, okay, mettons, de chances là, que tu... Alors, c'est important de savoir qu'on n'a pas juste pris les notes de 5, de 4 étoiles, puis les comparer avec les moins bonnes. On a aussi évalué les reviews en anglais, oui,
les commentaires,
si on, oui, veut, des gens, puis on a relevé toutes les expressions qui étaient comme « bah, très décevant »,« ah, pas aussi intéressant que je le pensais
okay. »,«
ah, des trucs genre », pour sortir justement un pourcentage. Alors, en première position,
oui,
la ville de Bangkok,
oh,
Thaïlande. Ouais, première position des villes les plus surévaluées. Vous avez 16,6% de chances de repartir de là déçu.
Oh, ouais.
Ouais. Miami, tu sais, je t'en nomme un autre. Miami à la 6e position avec un score de 13,9% de risque de repartir déçu.
OK, ben pour être allé une couple de fois.
Mais je vais vous dire qu'il y a, oui, quelques villes canadiennes qui ont été considérées comme décevantes par les touristes.
OK.
Mais attention, on n'est pas dans le top de la liste là.
Ah, oh, OK.
Quand même.
Okay,
ouais. Quand même. Parmi les villes canadiennes les plus décevantes, il faut se rendre à la 36e place du classement.
36e place.
Pour retrouver, c'est
Toronto.
Ouais. Toronto.
Ah oui.
Ouais.
Hein.
Ça a l'air que vous avez 10,9% de chance d'en repartir déçu. Et on a aussi évalué les attractions. Et à Toronto, ça a l'air que l'attraction que les touristes ont trouvée la plus décevante, ça a été le zoo de Toronto.
Ah, OK. Ouais.
mais rassurez-vous, là, les gens de Toronto, là, les Torontois, les Torontoises, là, parce qu'il y a d'autres villes très, très connues et très fréquentées qui ont aussi reçu leur part de commentaires décevants. Je pense entre autres à Las Vegas, qui arrive 33e.
Ouais. Donc, mais tu sais que c'est très personnel.
C'est très subjectif.
C'est ça, c'est très subjectif.
Et Madrid arrive juste derrière Toronto à la 37e place. Et Madrid, c'est quand même assez fréquenté. Oui. Elle a recueilli, elle, un pourcentage de 10,8% de chances d'être déçue.
Okay.
Plus loin dans le classement, vous avez Montréal, 43e, parmi les villes surévaluées. Vancouver, 56e. Ottawa, en 60e place. Tandis que Québec, c'est la ville canadienne qui fait, on va dire, la meilleure figure de toutes les villes canadiennes au palmarès de ces villes les plus surévaluées. On a un petit 8,2% de risque de repartir déçu de là. Donc, elle est, la ville de Québec, 67e parmi les 85 destinations les plus décevantes au monde. Puis, les gens ont dit que la place qui est la plus décevante là, à faire à Québec, là,
c'est quoi?
C'est le funiculaire.
Le funiculaire.
Je vais être franc, là.
Ah oui, mais
c'est un peu plate,
pour l'avoir déjà fait, oui.
C'est ça. Alors, pour retrouver le lien de ce palmarès, vous allez consulter la page Facebook de l'Arc du Canada.
Okay.
En date du 2 février dernier, si ça vous tente de remonter dans notre page Facebook, il va y avoir la publication que vous allez trouver là de ce lien vers le palmarès, puis vous pourrez voir si votre prochaine destination voyage, ça vaut la peine ou si vous risquez de repartir.
À Watteau, on était combien déjà?
À Ottawa, on était à Watteau. On était en 60e place.
60e place. Non, mais c'est parce qu'il y a un gros signe.
Oui, oui, c'est ça.
Puis il est à l'envers, le signe.
Tu vas te faire photographier en avant à Watteau.
À Watteau. Ben oui, mais à Watteau, ça veut dire quoi, Watteau?
On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Peu contenir des infos. Merci d'avoir été là.
Oui.
D'ici là, portez-vous bien. Salut.
Bonne semaine.